Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle année de joie, de bonne humeur, le 3 septembre à l'Institut des Libertés où nous commençons une nouvelle année dans la joie et la bonne humeur, apportée par les marchés tout cet été qui nous ont tenus bien occupés, ma foi.
Intéressé,
on va revenir dessus. Mais avant de revenir donc sur cette émission qui va surtout être à propos de cet été, de débriefer tout ça, de vous parler du Japon, de vous parler des marchés horribles et de vous parler aussi des 16 milliards que la France doit trouver, suivant Bruno Le Maire qui s'est réveillé hier en disant que visiblement il y avait des déficits en France et qu'on ne comprenait pas pourquoi. Donc à la surprise générale et de la sienne propre. Charles a commis, encore une fois cet été, c'est parce qu'on le laisse trop planter près des platanes, un nouveau petit ouvrage.
Tout petit, qui est
une sorte, comme vous savez, nous avons lancé l'Université de l'Épargne en février dernier pour vous apprendre vous-même à gérer vos fonds. Et de cette initiative est né ce petit livre qui est une sorte de guide pratique qui va s'intituler « Ne vous laissez plus faire ».
Arrêtez de vous faire avoir.
Arrêtez de vous faire avoir, voilà. Donc, vous voyez comme je suis au fait. Mais l'idée est la même. C'est en gros de prendre vos finances en main et de comprendre avec des petites règles simples comment rebalancer, comment comprendre les périodes, puisque tu as un système de 4 cadrans.
Voilà. Comment gérer, c'est-à-dire en vous plaçant dans le temps long. Parce que quand vous écoutez les gens qui vous parlent de la gestion, vous avez l'impression de gars qui sont frénétiques, qui se mettent devant un écran, qui réagissent si l'écran devient du rouge, bleu ou vert, etc. C'est pas ça du tout. Un portefeuille, c'est quelque chose qui est, comme je l'ai souvent dit, une espèce d'écosystème que vous devez bâtir. Je vous explique comment on peut le bâtir de façon rationnelle. Et puis ensuite, s'il est bien bâti, ben vous intervenez pour ainsi dire jamais. C'est-à-dire que vous le changez un petit peu à la marge, mais il est là. Et c'est comme si vous achetez un immeuble de rapport sur les Champs-Élysées. Ben, vous n'allez pas le changer toutes les 5 minutes pour passer dans le faubourg Saint-Honoré ou j'en sais rien.
Bien que tu prennes la métaphore des appartements. Il est certain qu'il y a certaines professions qui consistent à acheter des appartements, les retaper, ce qu'on dit en anglais « flip it », et le revendre tout de suite en essayant de faire une plus-value. Ça, c'est un peu ce que dans les marchés, on peut avoir avec des gens qui font du scalping.
Du trading, qui n'a jamais
été ton métier. Toi, tu as toujours été un gestionnaire de fortune, c'est-à-dire quelqu'un qui regardait en amont si l'immeuble avait des bonnes fondations, s'il était dans un quartier avec des bonnes écoles, si c'était un immeuble de rapport, s'il était sécurisé, ainsi de suite. Et une fois qu'il avait déterminé que c'était un bel immeuble et qu'on avait envie d'être dedans, eh ben, il s'y mettait pour 15 ans. Il n'est pas question de changer d'appartement tous les deux jours. Et c'est des métiers terriblement différents. Donc oui, il y a des gens qui font du trading, et très bien pour eux. Mais
c'est pas ce qu'on essaye de faire. Voilà. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est, vous savez, dans la vie, il y a le capital, le travail et les gens qui savent utiliser le capital et le travail, que dans mon jargon, j'appelle les entrepreneurs. Bon. Eh bien, le capital des trois facteurs, c'est certainement le plus rare. Donc, votre épargne, c'est vraiment la source de toute la croissance qui va arriver dans le futur. Donc, si on vous la gère mal, si vous vous laissez piquer cette épargne, etc., votre niveau de vie va baisser parce que vous vous occupez pas du futur. Quoi. C'est complètement incroyable. Ce pays où tous les gens épargnent comme des écureuils, et c'est très bien, est un pays où les gens s'occupent pas de leur épargne. Donc il y a un paradoxe extraordinaire, c'est que les Anglais et les Américains épargnent beaucoup moins, mais qu'il y a toute une industrie de l'épargne, même de l'éducation de l'épargne, comment apprendre aux gens à gérer leur épargne, et qu'en France, il n'y a rien du tout.
Mais alors, je crois déjà qu'il y a deux problèmes vis-à-vis de ça. C'est que, un, on a été élevé dans l'idée que l'argent était sale. À l'inverse, peut-être, de certains milieux protestants qui voient dans simplement l'argent, la rétribution d'un travail fait. Donc, il n'y a rien de sale à avoir une rétribution de son travail, puisque par définition, on a travaillé. Ce qui peut avoir de sale, entre guillemets, c'est le bien mal acquis.
Il n'y a pas, comme disait, je crois, le Christ, il n'y a pas de choses sales, il n'y a que des pensées sales. Donc, si vous voulez, si vous pensez salement, eh bien oui, vous n'allez pas bien gérer votre épargne. Donc,
mais si ça, si tu veux, c'est la montée aussi de tous ces LFI, de tous ces réseaux qui nous expliquent que l'argent serait né sur un grand crime, que toute grande fortune serait née d'un grand crime.
C'est Balzac qui est une ânerie, d'ailleurs.
Voilà, mais, et c'est Proudhon aussi, c'est quelque part d'imaginer que toute accumulation de fortune serait quelque part un bien mal acquis, quelque oui. chose que tu aurais pris à
oui,
quelqu'un
c'est
d'autre.
Une idée que c'est une idée que portait l'Église catholique pendant longtemps, mais c'est pas tellement vrai, parce qu'il y a, toute une série de gens qui ont bien réfléchi dans l'Église catholique, saint Thomas d'Aquin le premier, mais ce que j'essaie de dire, c'est que je crois que derrière ça, il y a la volonté des hommes politiques de piquer de l'argent de l'épargne des Français pour en faire ce qui leur plaît à eux.
Bien sûr.
Et donc, de façon à pouvoir le faire tranquillement, ils disent, un, je vais m'en occuper, ce qui est on sait que c'est fini à ce moment-là, ça ne marchera pas. Et deux, ils ne veulent surtout pas que vous soyez éduqués sur ces sujets-là, parce que ça leur permet de vous voler comme au coin du bois pour se faire plaisir à eux.
C'est-à-dire
pour payer leur maîtresse, pour je ne sais pas quoi.
Je considère que jusqu'à l'époque de Barr et ainsi de suite, jusqu'à l'époque où on lançait encore des grands emprunts d'État, il y avait quand même un respect de l'individu, puisque par définition, on ne prenait pas les Français en otage comme on le fait avec la dette aujourd'hui,
oui,
qui est une façon d'emprunter sans le dire. On leur disait, voilà, on lance un grand emprunt d'État qui sera rémunéré à X, et les gens en responsabilité allaient vers cet emprunt d'État. Et c'était
très
bien.
Il y avait des emprunts d'État qui étaient même indexés sur l'or. Il y en avait deux, le Pinet et le 7%, qui a été indexé après un accident de parcours. Et donc, c'était très intéressant. Il y avait Jefferson, l'un des pères fondateurs des États-Unis, qui disait il faut jamais emprunter sans en même temps expliquer comment on va rembourser cet emprunt, c'est-à-dire à quoi il va servir, quelle va être sa rentabilité, etc. Or, aujourd'hui, on considère qu'emprunter, c'est d'une façon, dans le fond, de payer les dépenses de l'État. Mais non, les dépenses de l'État doivent être payées par les impôts, pas
bien
par
sûr.
L'emprunt, parce que sinon, vous rejetez la pénalité sur vos enfants et vos petits-enfants. Donc, il y a toute une espèce de classe politique qui s'est développée depuis 25 ou 30 ans, qui ne vit que sur l'emprunt, et qu'en vous faisant croire qu'il n'y a pas d'autre façon de gérer qu'en faisant des emprunts. Mais la première des choses qu'il faudrait, s'il fallait faire une réforme constitutionnelle en France, c'est dire l'emprunt est inconstitutionnel, puisque c'est des dépenses qui ne sont pas votées par les citoyens.
Bien
donc,
sûr.
Normalement, c'est non constitutionnel. Donc, ce qu'on essaye de faire à l'Institut des Libertés et maintenant à l'Université de l'Épargne, qui est une idée d'Emmanuel, d'ailleurs, d'apprendre dans le genre, dans la technique, pas simplement dans les principes, mais dans la technique au jour le jour, comment gérer votre épargne, c'est vous libérer et empêcher ces gens de vous voler.
Alors, je voudrais faire un petit incipit ici, c'est que la limite de l'exercice pour l'Université de l'Épargne, c'est comme vous savez, la gestion des finances des particuliers, l'appel aux finances des particuliers, est un exercice extrêmement contrôlé par l'autorité des marchés, l'AMF. À ce titre-là, nous ne pouvons pas, malheureusement, vous proposer un portefeuille type que vous répliqueriez. Parce que, encore une fois, c'est encadré par l'AMF que nous respectons totalement. Donc, nous pouvons faire des conseils généraux qui vous permettent
Des exemples.
Nous pouvons aussi donner des tendances et nous pouvons, avec vous sur notre forum, en discuter sans donner véritablement de conseils directs. Nous pouvons en discuter entre nous. Entre particuliers sur notre forum, vous pouvez en discuter. Que certaines personnes disent « moi j'ai fait ça »,
On en discute. Et alors, on peut pas donner de conseils et tout, mais on peut dire, par exemple, ce qu'on a dit un peu avant l'été, que le yen était vraiment pas cher.
Très bonne transition.
Voilà.
Alors,
le yen était vraiment
arrivons,
pas cher, donc peut-être en acheter, c'était peut-être une bonne idée.
Voilà, il va falloir revenir sur cette période du yen. Déjà, pour une chose, c'est féliciter Charles qui avait le seul, pratiquement, de la place, ce que Richard avait fait détente ensuite, à prévoir ce coup du yen. Charles, vous avez dit, si vous l'avez suivi en...
J'ai rien prévu du tout.
En avril.
J'ai simplement dit, il est donné dans la rue.
Oui, mais tu as dit, acheter du yen. Et tu avais commencé à dire, acheter du yen. Arrive le crack, enfin l'espèce de mini crack qu'il y a eu en juillet, avec. Alors, il va
mais
falloir
pourquoi,
que tu.
Pourquoi il a eu lieu ce crack? Parce qu'il y avait un machin qui était donné dans la rue, le yen, qui s'est mis à remonter brutalement. Ce qui est. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent savent.
Tu ne veux pas revenir à 2021
Si, je vais peut-être revenir, mais attends, je vais d'abord expliquer un truc qui est très important dans les marchés, c'est que. Quand un marché se met à monter, mettons qu'il passe de 100 à 200 l'espace du bull market, tu vois, il double. 50% de la hausse sera faite dans les 10 premiers pourcents du temps.
D'accord.
C'est-à-dire que si tu n'es pas dedans au départ, tu vas rater la moitié de la hausse.
Oui.
Donc, ce que j'essaie de faire, moi, c'est de dire, quand il y a un truc qui est donné dans la rue, je dis, oh, je sais pas quand ça va péter à la hausse.
Mais quand ça va péter, je vais être dans les premiers.
Mais je serai là.
Oui.
Je serai là.
De bonne heure, de bonne humeur.
Voilà, non, mais ça montera. Donc, bon, le yen est monté.
Donc, tu prends ta hausse.
Je prends ma hausse. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que cette hausse, comme des tas de gens avaient parié que le yen allait continuer de baisser jusqu'à la fin des temps, ben, il y avait des tas de gens qui avaient emprunté du yen. Mmh. Bon.
Donc, ils avaient joué le yen à la baisse.
À la baisse.
Donc, ça... Ça, quand on fait ça, donc c'est des positions extrêmement dangereuses et on peut perdre plus
bien sûr,
que ce qu'on a mis.
Exactement.
C'est le principe
de la vente à découvert.
C'est que
et
là,
surtout si tu as pris du levier.
Surtout si tu as pris du levier.
C'est-à-dire prendre du levier, c'est-à-dire que vous empruntez 10 fois, vous avez par exemple 100, vous vendez 1000 yens et vous achetez 1000 en dollars. Et comme ça, si ça monte de 10%, vous avez doublé votre argent. Mais si ça baisse de 10%, vous avez tout perdu. Et donc, il faut savoir aussi, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il y a trois façons de gérer son argent. La première, c'est le retour à la moyenne. C'est ce qu'on appelle la méthode Warren Buffett. Vous avez un truc. Et Warren Buffett a une phrase très, très profonde. Il dit, ce que vous payez, c'est le prix. Le prix de l'action, je sais pas quoi. Vous payez le prix. Et ce que vous achetez, c'est la valeur. C'est-à-dire que tout le travail du marché, d'un type qui réfléchit sur le marché, c'est de dire, le prix n'est pas égal à la valeur. Soit je vends, soit j'achète. Oui. Donc, il faut bien comprendre que toute la finance fonctionne sur cette économie entre le prix, qui est là, que tu peux acheter par exemple aux yeux de vos enchères. Si tu achètes un truc dans une vente aux enchères, tu as souvent l'impression que tu as fait une bonne affaire. Mm-hmm. Ça veut dire que le prix que tu as payé était inférieur à la valeur que tu l'attribues. Donc, cette notion de prix et de valeur, ça, c'est le retour à la moyenne, c'est très important. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le momentum, c'est d'ailleurs, tu vois le prix monter, tu t'en fous de la valeur et tu l'achètes simplement parce que le prix monte. Donc, c'est typique des traders, si tu veux. Oui. Ça monte, j'achète, quoi. Oui. C'est le petit garçon à la plage.
Mais de sorte qu'en vérité, ils n'ont pas pris la hausse des 10% dont tu parlais tout à l'heure.
Non, ils n'ont pas pris. Ils sont peut-être en train d'acheter du yen maintenant en disant la tendance s'est renversée, tu vois. Donc ça, ils l'ont très blâmé. Et puis la troisième, c'est le portage. C'est-à-dire que tu empruntes en yen et tu vas acheter en dollars. Mais ça, comme le dit encore une fois Warren Buffett, qui est très malin, il dit c'est comme de ramasser des pièces du 10 centimes devant un rouleau compresseur. Vous voyez, donc vous êtes là, le derrière en avant, vous ramassez vos pièces et prrrr, vous êtes aplati, quoi. Donc moi, c'est un truc que je ne fais jamais.
Mais dis-moi, puisqu'on parle de Warren Buffett et qu'on a ouvert ça, qu'est-ce que tu penses de ces... Puisqu'il a fait deux grandes actions cet été.
Il a vendu Apple.
Apple, et il s'est placé en cash.
Il a un montant de cash monstrueux, et il a vendu aussi toutes les actions qu'il avait dans Bank of America.
Voilà. Alors, qui sortent des bancaires, ça j'ai bien compris, parce que moi, je ne resterai pas dans les bancaires s'ils remontent les taux, parce qu'on sait qu'ils sont capitalisés.
Enfin, ils vont peut-être gagner de l'argent, c'est plus compliqué que ça, mais en même temps, ça veut dire que il se dit qu'il y a... Imaginez que... Comment ça se passe, les crises financières? C'est qu'il y a toujours des gens qui ont fait du portage. La troisième explication.
La troisième, ils ont ramassé des pièces devant les compresseurs.
Voilà, ils ont ramassé des pièces devant. Et en général, ils ont été empruntés de l'argent à la banque. Donc quand le gars saute, qui dit qu'il va prendre la perte, c'est la banque.
Donc tu penses que Bank of America aurait peut-être financé des leviers incroyables, t'en es sûr? Voilà.
J'en suis sûr, je sais pas, mais je sais pas
un
comment.
Un peu comme toutes les banques californiennes il y a deux ans.
En tout cas, s'il y a une crise financière, Bank of America, Citicorp, Bankoo, ils y sont à chaque fois. Donc,
Les suspects habituels,
quand j'étais jeune, il y avait toujours le Crédit Lyonnais qui sautait ou qui était à la veille de sauter. Donc, si vous voulez, c'était très bien.
Il y a des banques qui ne peuvent pas résister à une mauvaise affaire.
Il y a des banques qui étaient très, très... c'est les banques qui n'ont pas de contrôle interne et où des réseaux sont importants pour aider les gens, etc. Donc, il y avait le Crédit Lyonnais, il y avait la Dresdner en Allemagne qui sautait aussi toujours régulièrement. Donc, c'était agréable. Mais aujourd'hui, c'est plus difficile de savoir parce que le Crédit Lyonnais a été racheté par le Crédit Agricole. La Dresdner par la Deutsche Bank, je crois, je ne sais plus. Donc, j'ai perdu mes repères, quoi. Je suis très embêté. Le gars qui faisait toujours sauter, je ne sais pas, on va voir. Mais enfin, pour revenir donc à ça, c'est cette histoire. Ce que ça veut dire, c'est que s'ils vendent la Banque américaine, ça veut probablement dire qu'ils pensent qu'il y a un risque de crise financière assez importante. Et dans ce cas-là, les banques qui sont l'intermédiaire entre le monde réel et le monde financier, elles sont souvent dans le... Mais c'est là où elles se font ratatiner, quoi.
Est-ce que tu crois pas que ça serait justement un bon moment, peut-être, alors on peut imaginer, si Trump était réélu, de revenir sur cette séparation des banques dépôts et des banques casinos? Parce que justement, si des petites porteurs venaient à être lésés, ce serait peut-être le moment pour remettre justement cette distinction entre ces deux banques.
Ben,
C'était le
Glass-Steagall Act. Mais qui a été tourné pendant les années Clinton. C'est pendant les années Clinton que toute cette classe un petit peu crapuleuse financière à Wall Street a pris le contrôle des États-Unis. On aura l'occasion d'en reparler dans les mois qui viennent, puisque les élections s'approchent.
Oui, mais puis je suis sûr que tu vas en parler cet après-midi avec Léonard.
Avec Léonard, mais il y a quand même, aujourd'hui, on voit de plus en plus que la thèse de mon livre, qu'il y avait une espèce de...
De marigot, de
conspiration des salopards. Elle apparaît de plus en plus en...
Il est certain que pour qui a suivi l'éviction de Biden pour qu'on nous mette Kamala Harris, on ne peut pas s'empêcher de se dire, mais écoutez, pardon, mais ce type est gâteux depuis 4 ans. Et à un moment, on décide de dire, ah oui, le roi est nu, mais le roi était nu depuis 4 ans.
Et tout le monde sait que Kamala Harris
est une pintade.
Et qu'est-ce qu'on fait? D'un seul coup, on nous annonce, toute la presse s'ébahit, nous annonce que c'est la nouvelle Madame Thatcher ou je sais pas quoi. Donc on se dit, écoutez, vous nous prenez vraiment pour des tanches, quoi. Mmh. Donc aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus que les partis démocrates aux États-Unis considèrent les élections comme on vous choisit un candidat entre nous, comme ça, les gars dans les salons fumés, comme on dit, on vous le sort et vous avez le droit de voter pour lui. Et ça me rappelle irrésistiblement l'élection de M. Macron. D'un seul coup, on nous a sorti un gars qui avait été... On ne sait pas d'où il sortait, ni pourquoi on l'a sorti.
Si, papa, souviens-toi, on nous l'avait proposé.
On avait proposé
pour être au premier tour de table. On t'avait dit, Charles, si vous voulez être au premier tour de table, je me souviens, c'est moi qu'on avait contacté, c'était 100 000 euros pour être au premier tour de table. Après, j'imagine que pour continuer à en être, il eût fallu mettre beaucoup plus.
Beaucoup plus. Donc y avait, et c'était bien avant l'élection.
Oh, c'était... Je ne savais à peine qui était Macron. Il était bien sûr pas à l'économie. Et je me souviens, quand on m'en parle, c'était la première année du mandat de Hollande. Oui. Et je suis obligée de réfléchir, alors que je suis quand même la politique, j'étais obligée de réfléchir en me disant, mais qui est Macron? Et je le...
Oui, on savait vaguement qu'il avait épousé une dame qui était plus âgée que lui. C'était à peu près tout ce qu'on savait de sa carrière. Donc, on voit bien que cette classe dont j'ai longuement parlé dans mon dernier livre a essayé et considère maintenant que les élections, c'est une espèce de coup de tampon qu'on met pour avoir, soi-disant, montré qu'on est une démocratie, qu'il y a eu des élections. Mais la façon dont les candidats arrivent aux élections, ça, c'est... C'est pas du tout... Donc, on voit bien qu'aux États-Unis, là, il va y avoir une élection où il y a un candidat qui fait campagne, qui va toucher toutes les mains, Dieu sait qu'on le voit partout, et puis un autre qui est le candidat de l'État profond. Donc, ça va être l'État profond contre... On va voir ce qui va se passer maintenant, mais il n'y a pas de doute, en tout cas, quelle est la nature de l'élection.
Alors, revenons donc sur ce yen.
Qu'est-ce qui se passe? Le yen, voilà. Il y a toute une série de gens qui avaient emprunté du yen parce qu'ils pensaient qu'il allait baisser. Alors, pourquoi ils empruntaient? Parce que le Japon, tout le monde montait ses taux. Tu sais, à partir du moment où l'inflation a décollé de façon surprenante, personne ne s'y attendait.
Absolument pas. Personne ne s'attendait à ce que l'inflation monte.
Ils avaient doublé, quadruplé la masse monétaire.
Il y a que les banques centrales qui ont été surprises. Sinon,
les banques centrales ont été douloureusement surprises de voir que d'un seul coup, les banques
montaient. Ainsi que Bruno Le Maire.
On m'a menti. Bon, donc l'inflation se met à monter, les banques centrales commencent à monter les taux. Pour des raisons tout à fait techniques. La Banque centrale japonaise avait décidé de se faire ce qu'on appelait le contrôle de la courbe des taux. Alors, c'est très compliqué, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils maintiennent les taux d'intérêt à zéro sur le court terme et qu'ils empêchent les taux longs sur le 10 ans de monter à plus de 0,50.
Pourquoi ils font ça?
Pour donner confiance au marché. Mais j'en sais rien du tout. C'est des bêtises de banquier central. S'ils foutaient la paix au taux, tout le monde serait plus riche et tout le monde serait plus content. Mais enfin, ils font ça. Et donc, tout le monde sait que les États-Unis vont monter leurs taux, l'Angleterre, l'Europe et tout le monde a monté ses taux, mais que la Banque centrale japonaise ne va pas les monter.
Parce qu'elle a fièrement annoncé
qu'elle n'allait jamais bouger.
Donc tu te dis, eh ben formidable.
Je vais emprunter en yens.
Je vais emprunter en yens.
et je vais emprunter un yen, et le yen se pâte la figure de 120 à 180.
Oui, parce qu'on sait que Mme Watanabe, quant à elle, prend des positions aux États-Unis, puisqu'elle n'est pas rémunérée sur son yen.
Chez elle, donc elle sort de chez elle, elle va acheter des obligations australiennes, n'importe quoi.
Elle n'est pas plus bête que mal habillée, elle gère très bien son pognon, Mme Watanabe.
Mme Watanabe, je ne sais pas ce que fait M. Watanabe, mais Mme Watanabe, elle se démerde très bien. Bon. Et donc, vous avez une position gigantesque, short. Tout le monde en short, ça veut dire que vous avez emprunté quelque chose que vous n'avez pas.
Que vous n'avez pas,
Vous devez le rembourser en vendant ce que vous avez. Donc, quand le yen se met à monter, tous les gars, il y a ce qu'on appelle des appels sur marge. C'est-à-dire que si un gros malin qui a joué 10 fois sa mise et que ça commence à monter de 2 ou 3%, la banque se rend compte qu'elle n'a plus les dépôts suffisants pour contrôler la perte qui risque d'arriver. Donc, elle dit au gars, vous me remettez de l'argent. Et si le gars n'en a pas, on liquide le compte. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle des ventes forcées. Et si la banque doit liquider une position yen que j'ai établie bêtement à la baisse, le fait que je vais perdre plus de pognon, elle s'en contrefou, elle le liquidera tout de suite. Tu vois, il n'y a pas d'état d'âme. Hein.
Parmi les trucs un peu farfelus que j'ai pu entendre ça et là, il y a des gens qui disaient qu'il faut interdire les appels sur marge.
Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tous ces Français, etc., ils n'ont qu'une idée, c'est d'interdire ce dit ou c'est d'interdire cela. Mais
personne ne te force à prendre une position short. Si tu as envie de te mettre en culotte courte, tu te mets en culotte courte.
Courte, exactement. Il n'y a qu'à voir comment les gens s'habillent. Si tu as envie de faire des tatouages, tu te fais des tatouages. Je ne suis pas partisan, mais c'est comme ça.
Donc, l'histoire de réguler les marchés ou de dire, ils apprendront. La prochaine fois, ils ne font pas ça.
Mais surtout, la prochaine fois, ils ne sont peut-être plus là. Ouais. Les marchés, il ne faut pas oublier, c'est ce que dit encore une fois ce cher Warren Buffett. Je ne sais pas ce que j'ai pour lui aujourd'hui, mais il dit les marchés baissiers. C'est la façon dont le système économique renvoie le pognon aux vrais propriétaires.
Oui, il y a un darwinisme dans le...
Il y a un darwinisme. S'il y a des crétins qui veulent se ruiner, c'est dans la Bible, hein. Encore une fois.
Je ne vois pas pourquoi on devrait interdire les appels de marge.
Mais speculare, je crois qu'en latin, ça voulait dire réfléchir.
Réfléchir, oui.
Donc ça veut dire que ce qui fait le marché, c'est des gars qui prennent des positions dans tous les sens. Et puis à la fin, on voit qui a gagné, qui a perdu. C'est comme si on devait interdire sur un terrain de foot le goal qui fait une erreur, qui prend un but stupide. Ça arrive. Même le meilleur des goals, de temps en temps, il fait un but contre son camp. il va dribbler l'avant-centre-avant, qui lui pique la balle et qui marque le but. Donc, encore une fois, tout ça, mais foutez bien la paix au marché. Et alors...
Alors ensuite, ce qui s'est passé cet été, c'est qu'on a eu droit à moult commentateurs, les suspects habituels, nous expliquant que c'était la fin du capitalisme, qu'on allait tous mourir dans d'atroces souffrances.
Et qu'il fallait se mettre en cash. Et alors là, ce qu'il y a de stupéfiant, c'est que je leur dis, je n'ai pas répondu parce que...
Oui, parce que...
Grosse fatigue. Mais le but, si vous voulez, si vous vous mettez en cash et dans une banque et que c'est la fin du capitalisme, vous allez le perdre, votre cash. Donc, la décision de se mettre en cash est sans doute, en cas de panique, la pire des décisions.
De toute façon, en cas de panique, est-ce que bouger est une bonne solution ?
D'abord, il faut bouger. Mais moi, ce que j'essaie de dire, ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on va essayer de faire avec l'université d'épargne et tout, c'est que, par exemple, les portefeuilles que j'avais recommandés, ils étaient dans la position défensive, 25% en or, 25% en yens. Bon, les deux sont bien montés pendant la crise. Et pourquoi je bougerais ? Moi, je suis très content. Si les autres, ils n'avaient pas vu arriver la hausse du yen et la hausse de l'or, c'est leur problème. Mmh. Moi, c'est pas parce que j'ai gagné de l'argent sur le yen et sur l'or que je vais dire maintenant, il faut les sortir. Tant que les choses n'ont pas changé, je reste avec ma position défensive. Et tout ce qu'on va essayer de faire maintenant à l'université de l'épargne dans les semaines qui viennent, c'est d'apprendre aux gens à gérer la partie offensive. Parce que la partie défensive, ça va, elle est établie, je pense que tout le monde a compris, 25% yen, 25% en or, et puis ensuite, on va pouvoir, ça va s'occuper
du
reste.
Après, ça n'est pas nécessaire non plus de se bourrer plus que de mesures d'or. D'abord, l'or physique en France est quand même imposé.
Oui.
Il y a une soit 11, soit vous le gardez au moins 22 ans et dans ces cas-là vous êtes exonéré, mais bon voilà, vous avez aussi si vous avez des ETF, vous avez 30% qui part aussi en frais, en impôts, puisque vous êtes imposé comme des dividendes sur la plus-value, donc si vous faites
c'est vrai ça
oui bien sûr
si tu la vends
Oui, ben bien sûr, c'est toujours pareil.
C'est oui, comme, c'est, si tu le vends, quand tu le vendras.
C'est comme une action.
C'est comme une action. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu... Mais si tu le gardes comme une position d'or 25% tout le temps, bon ben...
Oui, mais il arrive... Alors, si tu as ton or physique, tu peux choisir, tu as deux CERFA, tu peux choisir quel mode
tu
vas être imposé. Si tu décides de le garder longtemps, tu peux en choisir un qui te permet, si tu le gardes 22 ans, parce que c'est une décote. Alors, il faut voir comment
physique, ça...
36,2 et chaque année on t'enlève 3-4%. Donc la 22e année, la 21e année, tu passes à 34,6 et ainsi de suite. Donc à 16 ans, tu n'es plus qu'à 14% et à 22 ans, tu es complètement décoté. Si tu gardes de l'or physique.
Un ordre physique pur. Qui a pensé ça.
Non mais tu peux pas savoir, je regardais les taux hier et je me disais quel est l'abruti qui un jour s'est dit alors je vais mettre 13,9. Je me suis dit mais enfin c'est un fou furieux. Et si tu le déclares par l'autre système, tu payes 10,5 plus 0,5 de CDS, donc 11%. Soit tu le déclares à 11, soit tu vas sur le long terme et tu te dis j'essaie de gagner les 22. Et les ETF or, dans ces cas-là, quand tu vends, c'est comme une action, tu prends ta plus-value et tu la déclares au.
Voilà, donc pour ça, pour vous dire qu'il y a des tas de façons de détenir l'or, on va en parler longuement, mais l'essentiel, si vous voulez, c'était la construction des portefeuilles. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est quand il y a une crise avec un des portefeuilles que j'ai, etc., c'est que je m'en fous comme de l'an 40. Il ne se passe rien, ou j'ai bâti mon portefeuille pour qu'il résiste à la crise. C'est que j'ai mis des pneus neige, et bon, bah, si j'ai mis des pneus neige, je ne m'attends pas à aller dans le décor quand il y a du verglas. Quoi. Donc, tout ça, c'est une mentalité. Tous ces gars qui vous disent c'est la fin du capitalisme et tout, ils raisonnent dans l'idée, ils vous disent tout, c'est 1929. Mais, encore une fois, 1929, vous achetez des obligations d'État et de l'or, et en 50%, et vous passez 1929 comme une brise. Donc, c'est extraordinaire de m'avoir comme ces gars-là pensent que le marché des actions, c'est de rentrer et de sortir en fonction, en réaction avec ce qui se passe.
Alors, ce qui est drôle sur 1929, quand tu le dis, c'est qu'en réalité, ce qui s'était passé en 29 aussi, c'est que les gens avaient shorté terriblement. Donc, on était aussi dans des gars qui se retrouvaient en culotte courte. Et on a tous cette idée, tu sais, avec cette photo de ce type qui était devant une voiture et qui vendait cette voiture en disant 75$ en cash. Ce type, en réalité, c'est parce qu'il avait shorté ses positions, mais... À terme,
Il avait pris du levier.
Oui. Et il s'est retrouvé à monter. Il n'était pas du tout ruiné. Derrière, il a monté une agence de mannequins qui est devenue Metropolitan, une des plus grandes agences de mannequins aux États-Unis. Donc, c'est dans un système capitaliste, il y a des sursauts, il y a des petits.
On prend des claques, on se relève.
Il y a des trous dans le terrain. Et voilà, c'est pas parce qu'il y a des trous dans le terrain. C'est un système imparfait, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a de parfait dans ce monde, à part mon chien ?
C'est un système. Oui, à part le chien, c'est bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que. Un système antifragile est un système qui absorbe les claques. C'est-à-dire que vous prenez les systèmes socialistes comme la Russie, il n'y avait jamais de crise et tout, jusqu'à la crise finale où ils disparaissent en 5 minutes. Donc, la crise, ce n'est pas un signe de mauvaise construction, c'est un signe de bonne construction.
Bien sûr, c'est une purge.
Une purge, c'est un truc. Et donc, il faut essayer d'avoir des trucs qui résistent aux crises. Et encore une fois... C'est pas parce qu'il se passe quelque chose qu'il faut réagir. La plupart du temps, regardez cette crise. Reprenez ce que les gars écrivaient dans les premiers jours, sur tous les sites, etc. C'était terrible, qu'on allait voir ce qu'on allait voir, que c'était que le début. Et puis, deux mois après, plus personne n'en parle. Il s'est rien passé. Mais il s'est rien passé.
Mais ça a été affolant. Moi, on était tous les deux en vacances. J'avais l'impression, littéralement, de voir des gens. Dans le Titanic, en train de crier, c'est la fin du monde. Les gens se couraient dans les couloirs. Je dis, mais on va se calmer là. Qu'est-ce que vous faites à faire des émissions spéciales? C'est la fin du monde.
Il y avait un album de Tintin où il y avait une comète qui tombait sur la Terre ou je sais pas quoi. Et il y avait un fou qui se baladait en disant, c'est la fin du. Il y a tout le fou, il avait un chapeau pointu et tout.
Je vois très bien, il était en rouge.
Il disait, c'est la fin du monde,
repentez-vous
et tout. Et je peux pas m'empêcher quand je vois ces gars-là. Je dis, ils sont toujours en train de dire, c'est la fin du monde, repentez-vous. Mais.
D'abord, ça serait trop long.
D'abord, à faire la liste des péchés, on s'en sortirait plus. Mais je me repens de quoi, d'ailleurs? Et repentez-vous, c'est un truc très curieux. Ça veut dire que vous regardez derrière. Alors que le but, c'est de regarder devant. Donc, vous n'allez pas vous repentir des conneries que vous n'avez pas encore faites, quoi.
Non, bah non.
Repentir, c'est le statut de sel, tu sais, c'est la... Si tu te repends et tu regardes le passé, pouf, tu deviens une statue de sel.
Alors, donc ça, c'était ce qui s'est passé cet été à propos du Japon. Je pense que tout le monde aura compris qu'un, il ne fallait pas paniquer, et deux, pourquoi c'est arrivé.
Et en plus que trois, on avait vu le coup arriver quand on s'était présenté pour ça. Donc, je n'allais pas me mettre des cendres sur la tête parce qu'il se passait un truc que j'avais prévu, quoi. Il ne faut pas déconner.
Oui, on l'avait prévu. Donc...
on était contents. Nous, pendant que tout le monde sautait partout, on disait « c'est très bien ».
Alors, quand on vous avait laissé, on était encore, on venait de voter, on était en errance de gouvernement, on est toujours en errance de gouvernement, non pas que ça nous ait beaucoup manqué.
Ça, c'est la bonne nouvelle. Hein.
Oui, mais alors, je veux juste dire un truc, c'est que à l'époque, on s'était dit, bon, si le RN passe, il est possible qu'il y ait une attaque sur les marchés à hauteur de la dette et qu'on se retrouve avec des problèmes de financement. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, si... pour une raison X, il venait à mettre Lucie Castès, je ne sais jamais comment on le dit, est-ce qu'on ne pourrait pas se retrouver dans le même paradigme, c'est-à-dire que les marchés attaquent la France parce qu'on nous a mis un coco au gouvernement?
Alors, j'ai aucune idée, parce que il y a plusieurs problèmes qu'il faut poser là. Le premier, c'est qu'est-ce qui s'est déjà passé? Mais il s'est déjà passé que la France faisait partie, dans le fond, des bonnes signatures. C'est-à-dire qu'elle était entre 0 et 50 points, c'est-à-dire 0,50, de différence avec l'Allemagne. Tu vois, comme le pays raisonnable, comme le Danemark, comme tous ces pays-là. Bon, la France était considérée comme une bonne signature. Non pas qu'on soit bien géré, mais les étrangers...
Mais c'est une belle terre de tourisme, avec une belle agriculture.
Et surtout, les étrangers sont très admiratifs de la capacité du système fiscal français à traire les Français. Donc ils se disaient, ils augmenteront les impôts et on s'en fout, c'est pas notre problème.
On n'a pas des corps des mines pour rien.
Voilà. Et donc voilà, ça c'était bien. Et puis qu'est-ce qui s'est passé depuis un an à peu près? C'est qu'on est passé de 50 points de base à entre 75 et 100 points de base vis-à-vis d'Allemagne. C'est-à-dire que déjà les marchés ont dérapé sensiblement, c'est-à-dire que la France est en train de rejoindre les pays périphériques, tu vois, l'Italie, des pays comme ça.
Le Club Med.
Le Club Med, et donc on est plus, on fait plus partie...
Du Danemark, on va plus vers la Grèce.
On va plus vers la Grèce, donc on retrouve la Grèce, on retrouve l'Italie, etc. Donc. Et ça, l'écart, c'est à peu près à 100 points de base. Donc 1%. Et puis, s'il se passe un pet... politique ou quel que soit, à ce moment-là, si on passe 100, on ne va pas comprendre. Hein. Et, enfin, je veux dire, ça veut dire que le coup est parti à ce moment-là. Et à ce moment-là, le coup, comme je n'ai cessé d'expliquer, est terriblement difficile à arrêter. D'abord parce qu'on commence à sortir du ministère des Finances des statistiques montrant que les rentrées fiscales sont très inférieures à ce qu'on pensait. C'est-à-dire que le déficit budgétaire ne va pas être 5,5 comme on le disait, mais peut-être 6 ou 7. Quoi. On va voir, ça revient, on va voir si c'est confirmé, mais ça ne m'étonnerait pas. Ensuite, j'entends de tous les côtés qu'il y a des tas d'entreprises qui ferment.
Il y a des énormes défaillances d'entreprises parce qu'il y a des entreprises qui avaient été tenues par les aides Covid.
Et en fait, c'est
toujours pareil. C'est l'histoire schumpeterienne. C'est que quand tu tiens des choses moribondes, il y a un moment où si tu peux les continues pas à les tenir, il n'y a pas de destruction créatrice. Et ces choses-là doivent être détruites puisqu'elles ne sont pas viables.
Elles ne sont pas viables. Et donc, je viens d'apprendre aussi, je crois, hier, que jamais il y avait eu pendant une baisse comme ça de la production industrielle en France. Donc il ne nous en reste pas beaucoup, puisque ça fait plus que 8 ou 9% du PIB, mais en plus, elle se viande.
Alors pourquoi elle se viande? À cause du prix de l'énergie
c'est les commandes qui s'écroulent.
Oui, mais pourquoi on ne commande plus? Pourquoi ça veut dire que les gens n'achètent plus?
Tu es un chef d'entreprise, tu vas faire des investissements aujourd'hui. La seule chose que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de passer en cash flow positif, de façon à survivre. Donc tu arrêtes d'embaucher. Et tu arrêtes de faire des investissements.
Il est certain que si tu as les gens de LFI qui commencent à marteler des SMIC à 1600, des 100 balles et 1 mars, tu te dis, j'arrête d'embaucher. Parce que de toute façon, si on commence à me mettre des bâtons dans les roues...
Non, mais arrête d'embaucher. Et puis surtout, tu avais besoin d'une nouvelle machine d'outils. Tu te dis, mais ça va me foutre en cash flow négatif. Donc la banque ne va plus me prêter.
Voilà.
Donc, déjà, la banque ne te prête plus.
Donc tu choisis
d'essayer de survivre pendant 2 ans en attendant que voir ce qui se passera après. Mais tu arrêtes. Tu arrêtes toute dépense pour le futur, puisque le futur est tellement... Donc, ce qui se passe, c'est qu'apparemment, les commandes s'écroulent.
Alors, ça veut dire que potentiellement, si tu travailles avec des marques françaises, elles vont pratiquement pas avoir de réassort. C'est-à-dire, je me souviens, ça faisait ça quand on était à Londres, c'est-à-dire que personne n'avait des pièces détachées de rien.
De rien.
On faisait des pièces détachées à la commande, limite.
Mais encore, donc, il fallait attendre 3 semaines.
Oui, bah, c'est ça. C'est-à-dire que tu arrives, par exemple, imaginons, tu as une voiture française, tu dis, voilà, je voudrais un rétroviseur, bah, ils n'en ont pas. Hein, parce qu'on lancera les commandes de rétroviseur quand il y en aura 400.
Quand il y en aura 400. Et alors, c'est tout ça. Donc, et ça, ça fait un effet boule de neige, parce que si le type achète pas sa machine-outil, ben le type de la machine-outil, il achètera pas, je sais pas, le programme dont il a besoin pour améliorer ses machines-outils, et ainsi de suite. Donc ça fait un...
Ou il recrutera pas une secrétaire de plus.
Ou un travailleur de plus. Donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est le côté cumulatif de tout ça.
Bien sûr, c'est
toujours
possible.
Si quand vous commencez, vous savez...
Comme a dit un grand homme, il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on ne voit pas,
voilà,
dans l'économie.
Voilà, il y a ce qu'on ne voit pas, c'était Bastiat, oui. Et donc, et le, ce qui m'embête, c'est... On a fait des tas de travaux avec Didier sur les catastrophes. Mmh. Parce que c'est un système discontinu, ce qui est très intéressant. Et par exemple, les avalanches, ça commence avec un petit grain de neige qui décide que non, il ne va pas fondre, il ne va pas s'allier aux autres, il va bouler. Et à ce moment-là, il en entraîne un autre, il en entraîne un autre. Donc, les avalanches, c'est des phénomènes catastrophique qui d'un seul coup se déclenche parce que c'est le brin de paille sur le chameau, tu sais, qui casse le dos du chameau, paf, il s'essuie en trop. Et est-ce que, ça, je ne suis pas du tout catastrophiste, mais je dis, la plupart des grandes catastrophes financières ou économiques arrivent avec un phénomène de catastrophe qui fait que des systèmes s'enclenchent, et ça ne peut pas être prévu. C'est exactement comme des bébés dans une garderie, s'il y en a un qui se met à brailler... Ils se mettent tous à brailler. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils braillent.
Est-ce que ce n'est pas justement ce que Nassim Nicholas Taïeb appelle le Black Swan ?
Mais c'est ça, le signe noir.
Le signe noir, tout à coup, arrive à signe noir.
Tout à coup, arrive à signe noir, mais c'est absolument pas prévisible parce que c'est un phénomène d'entraînement, de contagion. Tu vois, c'est comme une épidémie d'un seul... Tout le monde a la trouille en même temps.
Cela
ça
dit,
s'est
tu
passé
peux,
un peu pour le Covid. Hein.
Tu peux un petit peu le percevoir, c'est drôle, parce que je pense à ça, ça colle à peu près. C'était, je ne sais plus, l'acte 6 ou 7 des Gilets jaunes, et j'étais avec Charles Prats, qui a l'habitude de faire pas mal de manifs. Et on était sur l'avenue de Wagram, et tout à coup, il se met à faire un petit silence, comme ça, et il me dit « Ouh là 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 là, je ne sais pas ce qu'il y a, viens, on remonte sur la moto, on repart dans l'autre sens. » Bah, il chargeait les CRS en 2 secondes derrière. Mmh. C'est quelquefois, c'est comme dans la forêt, quand tu n'entends plus un bruit et tout, tu te dis « Ouh là 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 là
et
là
alors,
là ».
Alors là, c'est un phénomène aussi qui existe dans les armées et qui a été repéré très souvent, c'est que de temps en temps, il y a un sous-officier ou un officier qui d'un seul coup dit à tous ces gars avec qui ils sont en train de faire une patrouille, ok, tout le monde dans les fossés, on se planque, il sait pas pourquoi.
Ouais.
Et deux secondes après, l'enfer commence. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y a des êtres qui sont plus capables de voir arriver les catastrophes que des autres? Je sais pas, mais ce que je vais dire par là, c'est
en tout cas, les animaux, quand il y a eu le tsunami, une heure avant, rentraient dans les terres.
Oui, et ma mère me disait que chaque fois qu'il y avait un tremblement de terre en Syrie, tous les chevaux se barraient de l'étable, enfin de l'écurie, quoi. Tout le monde partait dans tous les sens parce qu'ils voulaient pas rester.
Je pense que quand tu vois une bête faire un truc, faut faire pareil qu'elle.
S'ils courent
vers un endroit, tu cours avec eux.
Tu vois, et eux, ils diront s'ils courent avec nous, c'est qu'on a raison, donc ils vont courir encore plus vite. Et c'est exactement ça, c'est le phénomène de mimétisme. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que personne ne peut prévoir un événement comme ça, une espèce de partir en couille à toute allure.
De cagade.
De cagade. Mais les conditions sembleraient être réunies pour que ça soit possible. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, il faut surtout pas, et ce que je vais dire est important, dans ces moments-là, dans vos portefeuilles, abandonner vos droits de propriété. C'est-à-dire que vous avez la trouille parce que le prix baisse. Mais n'oubliez pas que si vous avez d'acheter de l'or, de la direction de l'or, ce qui compte, c'est la valeur, c'est pas le prix. Le prix, vous en foutez, c'est un truc qui est passager. Donc si vous voyez comment le prix a baissé, c'est par exemple si vous avez des actions des banques, ce que j'espère que vous n'avez pas, ça veut peut-être dire qu'il va y avoir une énorme gamelle et que les banques vont douiller. Mais est-ce que c'est pour ça que vous devez vendre vos actions? Non, parce que vous passerez en cash qui ne sera plus votre propriété. C'est-à-dire qu'en fait... En passant en cash, vous augmentez votre risque.
C'est vachement important ce qu'il vient de dire.
Tu vois, c'est un truc...
Le cash augmente votre risque dans des périodes de tourmente, parce qu'en réalité, le cash que vous avez dépend d'un état.
Et vous avez prêté l'argent à la banque.
Et vous avez prêté l'argent. Vous n'avez plus de biens mobiliers en propriété. Une action, malgré tout,
c'est
à vous.
L'or, c'est à vous. Tandis que le cash, c'est pas à vous. Donc quand les
toutes
gens
les
vous disent,
monnaie sont...
toutes les fiat monnaies, donc quand les gens vous disent passez en cash, faites du cash, ayez du cash, si vraiment il y a une crise,
la question est-ce que l'argent fongible, enfin qu'on détient,
le billet de banque
est une réserve de valeur.
Tiens, mais quand j'étais à cette conférence à Biarritz le vendredi dernier,
je crois que tu l'as laissé là-bas.
Je l'ai laissé là-bas. Ils m'ont dit, alors ce qu'ils faisaient, c'était rigolo. C'était une conférence sur le Bitcoin, parce qu'il m'aime bien, parce que je dis pas de bêtises sur le. Enfin, j'essaye de pas trop en dire sur le Bitcoin. Et alors, dans ce truc de présentation, vous aviez des billets de 20 000 bolivars vénézuéliens. Qui était là, que vous pouviez prendre gratuitement, il y en avait des plateaux entiers. Et ça, c'est du cash. Et ça vaut zéro. Donc, le sort de beaucoup de monnaies a été de disparaître historiquement.
Avant la Première Guerre mondiale, on avait une dévaluation du franc.
Non, pas avant. Entre les deux guerres, on a perdu. Alors, si on rentre dans des crises comme les guerres, etc., et qui ont été des éléments, de 1914 à 1945, celui qui avait du cash ou une obligation de l'État français a perdu 97% de sa valeur.
C'était l'histoire dans la famille de l'appartement en face de l'Assemblée nationale.
Ah oui, mais celui-là, il a resté de valeur. Il restait celui qui était en face de... Oui, on l'a pas acheté d'ailleurs. On aurait dû. Et donc, encore une fois, si vous vous placez dans l'hypothèse dans laquelle ces gens se passent, d'une crise vraiment profonde, par exemple, problème dans l'euro, vraiment une crise politique très profonde, les prix ne vont pas être intéressants, etc. Mais n'oubliez pas que si vous êtes actionnaire, vous êtes propriétaire, c'est à vous. Et quand on sortira de la crise, ça sera encore à vous et ça retrouvera sa vraie valeur. Donc, mais si vous avez du cash, je ne sais pas ce que ça vaut, ça vaudra que le bolivar.
Donc en réalité, si tu appliques cela à l'immobilier, un immobilier dans lequel tu vis...
Qui
est de bonne qualité, conservera sa valeur, ce qu'il ne faut pas en ce moment, peut-être...
Il ne conservera pas sa valeur, j'en sais rien, mais en tout cas...
Il vaudra toujours quelque chose, puisque de toute façon, tu vis dedans.
Tu vis dedans, c'est-à-dire que...
Donc il a le
aussi,
bénéfice de mettre un toit au-dessus de ta
d'usage,
tête.
Et il est probable que des gens comme c'est les grandes sociétés françaises dont vous avez fait une liste là, continueront à payer leurs dividendes, etc. Mmh. Donc, en aucun cas, si on rentre dans une crise politique profonde, il ne faut abandonner ses droits de propriété. Alors, vous pouvez changer de droit de propriété, c'est-à-dire vous pouvez augmenter votre part d'or et diminuer votre part action ou des choses comme ça. Ça, c'est de la gestion. Mais passer de ces actifs qui ont de la valeur à des actifs qui n'en ont pas, comme la monnaie. Et c'est là où je voudrais faire un truc, je suis confus, mais c'est une notion qui est compliquée, donc je voudrais que les gens réfléchissent bien à ce que je vais dire, s'ils peuvent, là. C'est que vous avez l'économie réelle, là, les usines, tout ça. Ça a de la valeur. Mm-hmm. Tout le monde sait que ça a de la valeur. Hein. Mais alors mettre un prix dessus, c'est vraiment difficile. On ne sait pas ce que ça vaut. Et puis, tu as tous les actifs financiers, actions, obligations, etc., qui ont un prix très facile à calculer, mais qui n'ont pas de valeur. Mmh. Ça vaut zéro, ce truc. Et donc, tout le système capitaliste, c'est le merdier tout le temps, parce qu'on utilise des trucs qui ont un prix et pas de valeur pour mesurer des trucs qui ont de la valeur et pas de prix. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vachement compliqué. Mmh. Comment tu y arrives ?
J'imagine qu'une partie de la...
Tout le monde essaye dans tous les sens.
C'est l'offre et la demande qui va la fixer au bout d'un moment.
Exactement.
Qui a envie de quoi
de là... Mais si tu rentres dans une crise...
Et que plus personne n'achète rien ?
Non, mais si tu rentres dans une crise, tout ce qui est les actifs financiers, par définition, ça peut aller à zéro, ça.
Par définition.
Alors que ton usine ou ton kilo d'or, ça ira pas à zéro.
Non.
Donc, si tu prévois une crise, te mettre dans les actifs financiers... C'est une bêtise. Donc tous ceux-là qui disent bouger en cash, etc., je leur dis, mais bouger en cash parce que le monde va s'arrêter. Mais vos billets de banque, vous allez les brûler, ça sert à rien.
Et on l'a vu dans l'histoire d'arriver avec des brouettes entières pour acheter une baguette de pain.
Exactement. Et donc, si tu veux, les gens ne comprennent pas qu'il y a les actifs qui servent à mesurer et les actifs que l'on mesure. Mais la vraie richesse, c'est les actifs que l'on mesure. Ce n'est pas dans les actifs qui servent à mesurer. C'est complètement idiot. C'est clair ce que j'ai dit ?
C'est très clair. J'espère que tout le monde l'aura compris, parce que je pense que c'est en ce moment quelque chose de très important, surtout dans une période où on sait qu'on va...
On va vers une destruction des actifs financiers.
Des
ça,
actifs
c'est
financiers.
Sûr. C'est sûr, ça. Donc on vous dit, mettez-vous dans les actifs financiers parce qu'ils vont être détruits. Tu leur dis, j'ai pas bien compris, ou vous avez raté une marche, ou c'est moi ?
Oui, c'est-à-dire que ce que tu dis aux gens, tu sais, c'est nif nif naf naf et nouf nouf. Tu dis, tant qu'à faire, si on pouvait pas aller dans la maison en paille, les actifs financiers, et qu'on allait vers la maison en briques, c'est-à-dire bah, les maisons en briques, ou des choses qui sont à vous, de l'or, des choses, voilà. Ça serait pas plus mal. Voilà. La maison de nouf nouf plutôt que celle de nif nif.
Exactement, mais c'est exactement ça. Et tous les spécialistes financiers vous disent, il est temps de vers la maison en briques parce qu'elle est beaucoup montée par rapport à la maison en paille. Oui, mais il y a le loup dehors. Hein.
Oui. Oui, oui. Donc moi, je préfère rester dans ma maison en briques, parce que quand le loup soufflera trois fois, je serai dans ma bonne maison en briques.
Et encore une fois, quand j'étais enfant, dans l'histoire des trois petits cochons, que je lisais avec soin, je tiens à dire que les deux premiers frères, ils étaient bouffés.
Nif Nif et Naf Naf, ils étaient... Il n'y avait que Nouf Nouf qui s'en tirait.
Ils étaient bouffés. Donc on a maintenant, vous voyez, dans toutes les histoires de Walt Disney, etc., ceux qui font des conneries s'en tirent toujours parce qu'il y a quelqu'un qui les en sort. Mais dans la vraie vie, les deux cochons... paresseux, ils sont bouffés. Et donc, encore une fois, c'est pour ça qu'on essaie de vous aider à gérer votre épargne, c'est parce qu'on veut que vous ayez des maisons solides, parce que c'est pas les corneaux qui vous donnent... Vous savez, j'avais un ami qui disait toujours « Lire la fraise financière est une façon rapide de se ruiner ». Mais ça sert... Ce qu'il faut, c'est que vous en savez plus sur ce qui vous intéresse.
Moi, ce qui m'intrigue toujours dans ce monde-là, c'est qu'il y a des gens qui n'ont aucune formation pour ça, qui ne travaillent pas dans ces domaines, et qui se permettent avec une immense arrogance de donner des conseils. Mais moi, ça fait quoi ? Ça fait plus de 15 ans que je travaille avec toi. Je n'oserais pas avoir, mais peut-être que c'est un problème féminin aussi, mais je n'oserais pas avoir le tiers de la moitié de l'arrogance de ces personnes, alors que j'ai 10 fois leur capacité quelque part, parce que tu m'as formé. Et donc, je me dis, mais c'est quand même incroyable.
Que j'ai vu, par exemple, je ne veux pas dire du mal des gens terrestres, selon la formule célèbre, enfin, par exemple, prenons un homme comme Mac ou des gens comme Attali. Bon, ça fait des années qu'ils nous expliquent ceci, qu'il faut faire cela. Ils ont tous des idées très arrêtées. Mais j'aimerais qu'ils publient leur portefeuille. Ouais, j'aimerais qu'ils publient la façon dont ils ont géré leur propre pognon. Je suis certain qu'ils doivent prendre culotte sur culotte, parce que s'ils ont suivi leurs propres idées, s'ils ont investi au moment où ils le disaient dans les trucs dans lesquels ils disaient qu'il fallait investir, je sais qu'ils ont perdu des sommes monstrueuses.
Je ne résiste pas donc à proposer cette citation de notre très regretté Revel, qui était « Il y a deux façons de tenir dans le monde intellectuel français. L'une est de se tromper jamais, c'est celle qu'aura choisie Raymond Aron, et l'autre est de se tromper toujours, et c'est celle qu'aura choisie Alain Minc.
» Voilà, mais donc, et bien ça n'empêche pas, par exemple, c'est Alain Minc qui nous a amené, entre autres, Macron.
Alors que maintenant, il est vent debout contre Macron, peut-être parce que c'est la fin du second mandat et qu'il sait que malgré tout... Et puis, c'est toujours pareil, c'est les oins du Seigneur amènent des gens au pouvoir et ensuite, un peu comme Attali, trouvent qu'ils n'ont pas été assez acclamés, qu'on ne leur a pas assez donné de légion d'honneur ou qu'on ne les a pas assez fait chevalier de l'ordre de je ne sais pas quoi. Ou voilà.
Grand Mamamouchi.
Voilà, et qui n'ont pas eu assez de chapeaux à plumes pointus. Et donc, ils en tirent un certain grief dont ils nous font part sur toutes les émissions de la 5, temps après temps, avec force journaliste macroniste. Voilà.
Alors, on peut dire tout ce qu'on veut d'un homme comme George Soros, que je connais bien et tout, mais lui, je sais comment il gère. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec ses idées, mais il gère très très bien, parce que son portefeuille est publié tout le temps. Donc... Lui, c'est différent. Il gère de façon... Et les idées qu'il a sont complètement cons.
Oui, mais alors tu remarqueras que ses idées, il ne les applique pas à son portefeuille.
Non, pas tout à fait.
Voilà, donc c'est comme si c'était un chirurgien esthétique qui faisait des choses bien sur sa femme, mais par contre, toutes ses patientes, il fait des trucs dégueulasses.
Exactement ça. Il n'aurait pas beaucoup de clientèle. Donc, encore une fois, il faut que les gens se convainquent de quelque chose de très important, c'est-à-dire la différence entre la propriété, ce qui est à vous, et un contrat, ce que quelqu'un d'autre doit vous rendre comme service parce que vous l'avez payé. Bon, le contrat, vous avez ce qu'on appelle une risque de contrepartie. C'est-à-dire que le gars en face, il peut dire, écoutez les gars, je me suis engagé à vous faire ça, mais je peux plus parce que je me suis cassé une jambe ou j'en sais rien. Bref, donc il y a un risque de contrepartie. Dans la propriété, il y a le risque de la faillite, c'est sûr, mais pas dans l'or. Mais il n'y a pas de risque de contrepartie. Donc, dans le monde dans lequel on va, où les contreparties peuvent disparaître parce que le système se défait, il faut avoir que de la propriété. Les contrats, c'est éminemment dangereux. Ou alors, tu peux avoir des contrats en obligation chinoise ou n'importe quoi, parce que là, ça me paraît à peu près raisonnable.
Mais ça, on reviendra sur ça dans la leçon qu'on va faire cet après-midi. Absolument. À l'Université de l'Épargne. Essayer de revenir justement sur le portefeuille offensif et possiblement des contrats chinois.
Voilà. Alors, dans l'histoire historique...
Car tout le monde sait que tu as acheté par le PCC.
Oui, mais j'aimerais bien, mais j'attends toujours le chèque. Hein. J'ai attendu le chèque. Bon, Israël, ils m'ont toujours pas payé, ces salauds.
Soros non plus.
La CIA ne m'a pas payé.
Poutine non plus.
Les Russes.
Les Russes, on attend toujours après.
On attend toujours après. Donc, je suis acheté par tout le monde, mais c'est curieux, personne ne me paye.
Ni Atlas, je ne sais pas. Tu sais, il y a un débile. Non, tu sais, il y a un journal, le Guardian anglais, avait fait une sorte d'étude où il expliquait que The Atlas Foundation finançait des fonds en Angleterre. Et un type qui s'appelle Usul a décidé de transposer cet article du Guardian, et il s'est dit, tiens, il y a quoi comme truc à droite en France qui pourrait être la transposition du truc anglais? Mais les Anglais, eux, c'était basé sur une petite recherche, et il s'est dit, tiens, Charles Gave, il est donc payé par le fonds Atlas, tout ça parce que notre Gruffalon, Jean-Claude Gruffat, fait partie là-bas. Mais tu sais, il est tous les cocktails, Jean-Claude.
Il est au bord de des tas de trucs.
Il est au bord de Tartuque parce qu'il adore ça et que c'est quelqu'un de très sociable. Donc il adore être au bord, rencontrer des gens, et il a fait ça toute sa vie. Donc il est à l'Interallié, il est voilà, bon. Et il se trouve qu'il est au bord de, où il fait partie de Atlas. Et donc à cause de ça, on ferait partie d'un réseau. Mais j'ai envie de dire aux gens, mais on veut bien en faire partie. Mais dites-nous, c'est où? Parce que personne ne nous paye, on n'a pas reçu d'argent. Moi, je veux bien faire partie d'un réseau important et mondial qui nous paierait des millions et qui nous contraindrait à je ne sais pas quoi, mais...
Oui, j'attends avec impatience.
Si vous voulez leur nos comptes...
Le grand complot sioniste mondial aussi, celui-là, j'attends toujours l'échec, quoi. C'est toujours pareil. Ouais. On est extrêmement...
J'ai plus l'impression, si tu veux, qu'on a donné que reçu, mais je...
pour recevoir des coups, on en a reçu, ça, c'est
non, alors, indépendamment des coups, mais en termes de pépettes...
Oui, c'est pas faux, je le sais, puisque c'est... Donc, vous avez cette notion qui est essentielle, et vous avez l'autre notion qui est essentielle, c'est... l'imprévisibilité des cassages de gueule. Et ça arrive très rapidement. Donc, si vous n'êtes pas préparé avant, vous êtes cuit. Mmh. Vous ne pouvez plus bouger. Mmh. Parce que c'est arrivé à des tas de mes copains. Le cassage de gueule commençait. Ils téléphonaient à leur agent de change en disant « Vendez !» Et le type leur répondait « Mais à qui, monsieur ?»
Ben oui.
Il n'y a plus d'acheteurs.
Ben oui.
Donc, c'est ça le crack. C'est d'un seul coup... Plus personne n'achète, pour ainsi dire, aucun prix. Quoi.
Oui, parce que effectivement, quand tout le monde, surtout dans des marchés extrêmement spéculatifs où des gens ont pu prendre du levier, par définition, ils n'ont plus de position en cash. Donc même de toute façon, qui va t'acheter quoi, puisque tout le monde est restreint. Donc voilà. Au début, tu as peut-être un petit peu de marge, parce que, mais oui, sinon, il n'y a personne pour acheter. Oui.
Il n'y a personne pour acheter. Et alors, ce qui se passe, c'est ce qu'un type qui avait écrit sur le crack de 29... Il avait dit, c'est là qu'apparaissent, quand le crack arrive, les bezels, tu sais, unbezeled. Ça veut dire qu'il y a les... Tu te rends compte qu'il y avait toute une série de fraudes, du style... comment il s'appelait celui qui avait fait cette énorme fraude, là? Des schémas de Ponzi, là.
Madoff.
Madoff, voilà. Ben, et à ce moment-là, quand le marché se défait, il y a toute une série d'activités dont tu te rends compte qu'elles étaient purement illusoires, mais qui sont des fraudes. Et à ce moment-là, ça déclenche des forces forcées, etc. Donc,
mais
il n'est pas possible qu'il y ait eu 10 ans de bull market comme on en a eu récemment et qu'il n'y ait pas maintenant des bezels partout.
Le marché... On a connu en 2000 le marché des pharmaceutiques et le début d'un marché Internet aussi qui était hautement spéculatif et des bulles. Ça a pété. Bon, évidemment, 2008, qui était là carrément un énorme embezzlement, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, on peut se demander si certaines pharmaceutiques, certains produits un petit peu...
je vais te donner un exemple, deux exemples.
...pointus ne sont pas aussi partie de cet embezzlement.
Bien sûr, mais regarde par exemple le PIB américain. Aujourd'hui, 18% c'est la santé. Or, l'espérance de vie, est en train de baisser aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'il y a toute une partie du PIB américain, 18%, qui n'est pas un PIB de marché, qui est fait par des grandes sociétés pharmaceutiques, qui se mettent d'accord avec des grandes sociétés d'assurance pour tondre les Américains. Mais ça ne correspond pas du tout à un enrichissement des Américains ou à une meilleure santé.
Bah, si tu veux, on a tous entendu le sénateur Kennedy qui disait quand même cette chose, et je pense que c'est très vrai. Il disait autrefois, un pédiatre de quartier, dont sa patientèle d'enfant, avait un enfant diabétique. Il dit maintenant, 1 sur 3 qui passe le seuil de sa porte est en diabète de type 2. C'est-à-dire, c'est pas un diabète héréditaire. Le diabète de type 2 est un diabète inhérent à la nourriture et à la consommation qui est donc trop sucrée.
Et ça, ça ferait monter le PIB ?
Et ça, voilà. Donc, bon. Et on est sur un problème qui est créé par une mauvaise alimentation et qui ensuite va soi-disant être géré par des laboratoires. Mais est-ce de la croissance, ces choses-là ?
Mais non. Mais non, c'est-à-dire que ni les produits alimentaires qui sont vendus, donc on a un problème de mesure du PIB, dont on en a souvent parlé ici, et à mesure de la valeur des actifs financiers qui sont attachés, il y a un autre truc, c'est qu'aujourd'hui, ben, j'ai appris récemment, j'en ai parlé aussi, vous aviez par exemple, vous savez, des missiles que vous tiriez sur les drones, là, qui étaient, on appelle ça des Milan, je crois, c'est-à-dire des missiles avec une ficelle attachée, que tu les guidais comme ça avec la ficelle, tu vois, c'était... Et ça valait $1,500, on ne sait plus quoi. Et aujourd'hui, le même genre de truc dans le PIB américain est vendu à l'armée américaine par les grands groupes, qui se sont tous réunis entre eux, qui ont fait un monopole, à $1,000,000. Donc un truc qui se vendait à $1,500, maintenant il se vend à $1,000,000, ce qui fait des profits gigantesques qui vont dans le PIB. Mais...
Il n'y a pas eu de création de richesse.
Tu n'as pas plus de missiles à tirer ?
Non.
Donc tu vois, si tu prends 4% du PIB américain à la défense, tu te dis, ils dépensent de l'argent comme des fous, les Américains. Mais ils dépensent de l'argent comme des fous, pas dans des armements efficaces, dans des armements qui sont extraordinairement surévalués et qu'ils achètent beaucoup trop cher. Et s'ils font la même chose dans la médecine, tu te dis, mais il y a toute cette partie de l'économie qui est un théâtre de...
Et un théâtre d'ombre. Et il arrive un moment où peut-être le reste du monde, et là on se tourne vers la Chine et peut-être la Russie,
la Chine,
sort de ce conflit,
vont
se dire, on en a peut-être un peu marre de payer pour cette croissance américaine.
Mais qui ne veut rien dire. Et donc, moi ce qui m'embête à l'heure actuelle, c'est que si vous faites des produits dégueulasses, bon ça va dans le PIB parce qu'ils font des marges dessus, puis ensuite que ça rend les gens malades, bon ça va dans le PIB parce que le truc monte... Et enfin, tout le monde meurt plus tôt, mais là, ça ne va pas dans le PIB, ça en soustraint. Donc, aujourd'hui, l'espèce de monde extraordinairement prégnant qui gère les grandes multinationales de bouffe, plus les grandes multinationales d'armement, plus les grandes multinationales de communication, etc., ils nous ont créé un monde où ils nous expliquent qu'on devient plus riche. En fait, ce n'est pas vrai du tout, on devient plus pauvre. Enfin, toi et moi, quoi. Je veux dire,
oui,
pas
oui,
eux.
Oui, bien sûr.
Et donc, dans la critique de l'extrême gauche aujourd'hui, il y a une critique qui est très valable, c'est-à-dire cette critique de ces sociétés qui ne sont plus démocratiques, mais les solutions qu'ils proposent sont idiotes. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, si tu prends depuis 2008, le PIB par tête en Europe n'est pas monté.
Non.
Ça fait donc quoi ? Ça fait 2008, ça va faire 16 ans. 16 ans qu'il y a une stagnation du PIB européen par tête. Ça veut dire qu'on s'appauvrit. Et qu'on nous explique tous les ans qu'on est monté d'un demi ou de 2%. Et c'est pas vrai. Donc on a une espèce de distanciation qui se passe dans les esprits entre ce qui écoute à la télévision puis ce qu'ils voient dans la réalité. Quoi. Dans la réalité, on s'appauvrit.
Oui, bien sûr.
Parce qu'on n'est plus dans un monde compétitif. Ni dans le monde politique, ni dans le monde des affaires, il n'y a plus de compétition. Ils se sont mis d'accord pour nous coller des monopoles. On nous colle Fillon, Macron. Et puis de l'autre côté, eh ben, on dit rien à Amazon.
Oui.
Eh ben, tout ça, si tu veux, c'est des délits de démocratie. En fait, on est en train de devenir l'Union soviétique.
Oui, sans le savoir.
Sans le savoir. Enfin, si, on le sait, mais C'est ce qu'avait dit d'ailleurs un certain nombre de grands refuseniks, là, les Bukowski et tout. Ils nous avaient annoncé que l'Union soviétique, c'était le fil naturel, c'était l'Europe. Hein. Mm-hmm. Donc c'est là. On avait un problème, on dit c'est la faute du capitalisme, mais attendez une seconde, c'est pas du tout du capitalisme qu'on a.
Non,
puisqu'il n'y a plus de rapport entre l'argent et le risque. On a un système qui est aujourd'hui profondément vicieux. Et vous avez qu'à écouter ce que dit un type comme Robert Kennedy, là, ses discours, si vous parlez l'anglais. C'est d'une beauté.
Oui, je prends beaucoup de plaisir aussi à l'écouter.
Ah oui, il faut l'écouter. Il est d'abord.
J'ai hâte, j'ai hâte qu'il y ait un croisé avec Jordan Peterson.
Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que si Trump est élu, il est possible qu'il soit le ministre de la Justice. Et à ce moment-là, il va pouvoir aller chercher les gens qui ont tué...
Les écuries d'Augias.
Non, mais il va pouvoir les gens qui ont tué son père.
Oui.
Ça sera ça. Et là, ça va nettoyer ses clans. Ça sera comme dans la guerre des étoiles. My son.
Alors moi j'avais cette autre référence, c'était My name is You killed my father, c'était celui avec l'épée de
oui. Ah, ça, c'était,
My name is Conan Moreno, You killed my father, prepare to die. Je sais plus, c'était The Princess Bride, je crois. Je sais plus, Louis Vincent faisait toujours ça quand il était petit. My name is You killed my father, prepare to die.
Ben voilà, donc encore une fois, on rentre dans une période très étonnante où cette espèce de série de villages Potemkin qu'on nous a montré va sans doute s'écrouler. Et donc, il faut absolument ne rien acheter qui dépend du truc Potemkin et n'acheter que des choses qui dépendent de la réalité, quoi.
Oui, voilà.
C'est quand même beaucoup plus important que de paniquer chaque fois que le yen fait un pet de travers, quoi.
Et de dire que c'est la fin du monde et qu'on va tous mourir.
Alors, ça,
on va
ça,
tous
c'est
mourir.
Certain. C'est certain.
Je vous l'avais bien dit.
Bon, c'est l'histoire de la mère juive qui met sur sa tombe « Vous vouliez pas croire que j'étais malade ?»
Je vous l'avais bien dit. Maman nous fait un peu ça à chaque fois aussi. Mais bon. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez bien suivi, que n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je pense que peut-être, justement, la semaine prochaine, on fera une émission ici avec vos questions. Et puis après, on reprendra sur peut-être des sujets que l'actualité nous dictera.
On va parler un petit peu de la situation politique aux États-Unis, parce qu'il se passe des choses, là.
Voilà. Donc, la semaine prochaine, on fera une émission de questions. Si vous avez donc des questions qui sont attachées à ce qu'on vient de faire, n'hésitez pas, je vais ouvrir un espace sur YouTube. Et en attendant, on est très heureux de vous avoir retrouvés. Et on vous dit, ben, ma foi, on est reparti pour de nouvelles aventures et une belle année, en présence du DAF qui nous a fait ses petits ronflements, quand même, une oreille attentive les aura décelés. Et on vous dit encore une fois à très bientôt.
À très bientôt.